La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Bien davantage qu'il y a 20 ans, en septembre 1999 par exemple, lorsque cette émission vit le jour, la question des inégalités sociales occupe une place considérable dans l'espace public. Non pas qu'elles soient nouvelles, ces inégalités, même si beaucoup au cours de cette période n'ont eu de cesse de se multiplier et de se creuser, mais tout simplement qu'il est devenu difficile de les nier, de ne pas les voir. Voir les inégalités, les rendre visibles pour les autres est assurément l'une des tâches dont se sont acquittés un nombre croissant de chercheurs et de chercheuses en sciences sociales depuis 20 ans. Plus rares, toutefois, sont celles et ceux qui, au-delà du diagnostic et des statistiques, se sont efforcés d'appréhender les effets concrets de ces inégalités sur les individus qui composent les sociétés. C'est là, sans doute, l'objectif principal d'un livre important qui paraît en cette rentrée, un livre collectif qui est aussi un véritable livre d'auteur et non la simple juxtaposition de contributions éparses. Le livre, qui est issu d'un collectif de chercheuses et de chercheurs animé par le sociologue Bernard Lahir, s'est penché sur le berceau des inégalités, ce qu'ils appellent justement l'enfance des inégalités. Car c'est là, sans doute, parmi les enfants, que se donne à voir et à vivre de la manière la plus éloquente, et pas seulement la reproduction, mais même l'engendrement des inégalités sociales. C'est d'enfance qu'il sera question toujours dans cette deuxième partie de l'émission pour laquelle nous rejoindra Sylvain Patieu qui publie en cette rentrée littéraire Forêt furieuse aux éditions du Rouergue, un livre dans lequel de très nombreux enfants sauvages, c'est comme ça qu'il les décrit en tout cas, viennent peupler un monde imaginaire et qui fait d'une certaine façon écho au monde de l'enfance de ce très gros volume Enfance de classe sous votre direction Bernard Lahir qui paraît aux éditions du Seuil. Vous êtes sociologue, vous êtes professeur à l'École Normale Supérieure de Lyon et donc vous avez animé cet ensemble de 17, je crois, chercheuses et chercheurs.
16. On était 17 en tout.
Vous êtes 17 en tout. 4 ans de travail. Un livre peuplé d'enfants, parce que la grosse partie du livre est composée d'une série de portraits d'enfants. Ouais. Vous allez nous expliquer comment vous y êtes pris pour construire et faire le récit de ces portraits par la suite. Mais j'aimerais, puisque c'est la rentrée qu'on commence, par faire l'appel, comme on fait en classe. Alors j'appelle d'abord Hachan, Bernard Lahir.
Alors Hachan, comme tous les autres, hein, c'est un enfant de grande section de maternelle, qui a à peu près le même âge que les autres, etc. Mais alors, voilà, il est situé au plus bas de l'espace social. Il est dans une famille très précaire, constituée de sa mère et de lui. Il a un frère, mais qui est ailleurs avec le père. Il vit dans un foyer Sonacotra. La mère a connu une trajectoire qui serait trop longue à raconter, qui est terrible, a quand même un petit parcours qui la sauve, je pense, de cette misère. Elle a été infirmière quand même au Sri Lanka. Elle vient du Sri Lanka. Et en fait, le petit Hachan, c'est un gamin à la fois que les enseignants disent attachant, parce que il a un très beau regard, il a un très beau sourire, etc. Mais alors, il ne fait rien de ce qu'on lui demande. Il est à la limite dangereux, vraiment du danger pour ses camarades, parce que il s'amuse en permanence avec eux et parfois de manière un peu, on va dire, agressive, sans véritablement le vouloir. C'est pas un enfant dont on sentirait quelque chose comme une violence. Non, il s'amuse mais trop. Voilà. Et du coup, cet enfant, effectivement, il vit dans des conditions un peu terribles. Il n'a pas toujours mangé à sa faim. Il pas dans des très bonnes conditions. Ils sont dans deux pièces d'un foyer Sonacotra qui est très bruyant, donc il dort très mal et donc il arrive à l'école fatigué le matin, etc., etc. Voilà pour Hachan.
Alors j'appelle Mathilde maintenant.
Alors Mathilde, là on monte très très rapidement, parce que Mathilde c'est un cas d'une petite qui on a hésité à mettre en bas des classes supérieures. Voilà, on a décidé de la mettre en haut des classes moyennes parce que voilà, son cas était, c'était très difficile. Les parents ont des salaires relativement moyens pour des cadres supérieurs. Ils sont inspecteurs des douanes. On a affaire à un milieu qui a du capital scolaire sans avoir les plus gros capitaux scolaires, qui ont un capital économique sans avoir suffisamment de capital économique pour pouvoir aller dans les quartiers les plus bourgeois. Et c'est un cas intéressant pour ça, parce que on est, pour beaucoup de personnes des classes moyennes, dans des situations où, à la fois, on voit les parents essayer de se distinguer de tous ceux qui sont en dessous d'eux. Et donc, ils ont une stratégie plus ou moins consciente, mais parfois, c'est pas conscient. Hein. C'est... Il y a un travail permanent pour se distinguer d'autrui, la volonté de mettre les enfants bientôt dans le privé, etc. Mais au départ, ils voulaient avoir une stratégie résidentielle plus ambitieuse qu'ils n'ont pas réussi à atteindre parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent. Donc voilà, la petite Mathilde va, on va dire, très très bien, mais c'est très tendu quand même. L'éducation est très tendue, on veille vraiment à la faire réussir dans tous les domaines. Elle a déjà des connaissances en matière de lecture-écriture, etc. Et on l'a fait tester parce que il est question d'un enfant qui pourrait être intellectuellement précoce. Voilà. Bon, c'est pas totalement typique de toutes les classes moyennes, loin de là, mais de cette frange qui est à la limite des classes sup et des classes moyennes. Voilà.
Alors, je vais pas appeler l'ensemble des 18 enfants qui composent cette classe, en quelque sorte, au sens scolaire du terme, de ce livre, Enfance de classe. Une classe, d'ailleurs, qui réunit des enfants qui viennent de villes et de régions différentes, mais qui sont tous, vous l'avez rappelé, en grande scolarisée, en grande section, d'âge un petit peu différent, mais à peu près le même. Je vais simplement terminer par appeler Lucie.
Alors, Lucie, c'est un cas assez drôle, je pourrais dire, parce que d'abord, on a commencé par ce cas-là, qui a été le cas qui permettait de voir comment on pouvait écrire, justement, un cas. Puisqu'il fallait donner un modèle, parce que sinon, chacun aurait écrit à sa manière chaque étude de cas, et c'était pas le but. Le but, c'était d'arriver à trouver la manière de présenter ça de manière à peu près similaire, et après de laisser faire la différence, évidemment, se voir dans les portraits. Alors, c'est une fille d'un écrivain, qui est au pôle le plus pur du champ littéraire, on va dire, et d'une mère qui est prof de philo. Et c'est une enfant qui a un niveau de vocabulaire très élevé, qui a un capital narratif, on va dire, extraordinaire. Le père passe son temps à faire de l'ironie, des blagues, à raconter des histoires. Le développement de l'imagination est vraiment le but de son mode d'interaction avec ses filles. On a évidemment une famille qui refuse que les enfants restent devant la télé, qui choisissent les DVD, voilà, elles ne regardent pas n'importe quoi. Quand par hasard on est sur Internet et qu'on tombe sur une publicité, on s'empresse d'être ironique face à la publicité, etc., etc. Bon, tous ces petits détails-là montrent qu'il y a des manières de se positionner dans le monde, qui est à la fois une manière qui met au centre la question de la culture, du langage, de sa maîtrise, etc., qui va sans doute conduire les filles vers le pôle le plus... Ah, en plus, c'est des filles. Alors, j'allais dire pour les parents, parce que on sait que il y a beaucoup plus de filles dans le pôle littéraire des études. Et donc, c'est encore spécifique, j'allais dire, le fait d'être... S'il avait eu un garçon, peut-être que il y aurait eu un début de contrariété, etc. Mais là, bon, voilà, il a deux filles, et on sent que c'est le pôle littéraire, que c'est une famille qui est sursaturée d'enseignants, par exemple, où on voit beaucoup d'art, beaucoup de culture et beaucoup d'enseignants.
Voilà. Alors j'ai choisi ces trois enfants sur les 18 qui sont dans le livre, tout simplement parce que vous avez participé à l'écriture de ces portraits, soit tout seul, soit avec d'autres collègues sociologues. Et donc ils vous étaient sans doute plus familiers que d'autres enfants, même si vous les connaissez tous pour les avoir fréquentés toutes ces années à travers des entretiens qu'on vous avait rencontrés directement, mais aussi à travers la lecture des travaux des autres chercheurs. Alors vous dites à un moment dans le livre, dans un des chapitres que vous avez rédigé, Bernard Lahire, vous dites de toute façon, quand on est sociologue, on n'a pas le choix, on est en quelque sorte requis, on doit travailler sur les inégalités. Là, en revanche, vous avez fait un choix, c'est de travailler sur les inégalités en vous intéressant aux enfants. Pourquoi ce choix ?
Moi, j'ai tendance à dire que la sociologie, si elle avait travaillé dans le bon ordre, aurait commencé par là. Ce qui peut paraître étrange, parce qu'évidemment, pour des sociologues, travailler sur des enfants, c'est pas naturel du tout. Donc ce pas naturel du tout est lié à l'histoire de la sociologie, au fait qu'on a laissé, grosso modo, aux sciences de...
À la psychologie.
Voilà, à la psychologie, à la psychanalyse, etc. Et donc on a un peu déserté ça, alors que, par ailleurs, la sociologie, depuis très longtemps, mesure les effets dans tous les domaines de l'origine sociale. Il suffit de prendre les professions des parents ou les niveaux de diplôme des parents. On croise ça avec des pratiques alimentaires, des pratiques scolaires, des rapports à la santé ou je ne sais quoi, et on voit les effets. Donc il aurait été logique de se dire, bon, bah, alors comment ça se fabrique dès le début ? Et en fait, non. Les sociologues font des théories de l'acteur en pensant à des gens adultes qui sont déjà constitués. On a l'impression qu'ils n'ont jamais été enfants. C'est des électeurs, c'est des pratiquants de tel sport ou je ne sais quoi. Mais ça a été, à un moment donné, des jeunes adultes. Mais on ne s'intéresse pas beaucoup aux adolescents, un peu plus quand même. Et alors, plus on va vers le bébé, et moins on a de sociologues, on va dire. Et ça, c'est un vrai problème, parce que évidemment, il y a un destin au berceau, comme dit Camille Penny. On a quelque chose qui se joue assez tôt, par toutes les propriétés sociales qui sont là, par tous les capitaux ou les manques de capitaux qui structurent le quotidien. Et donc, c'est ça qu'on voulait faire, c'était regarder à hauteur d'enfant ce qui se passe.
Mais l'une des raisons pour lesquelles, outre la division du travail avec la psychologie, mais l'une des raisons peut-être pour lesquelles la sociologie s'est peu penchée sur le berceau des inégalités, a peut-être à voir aussi avec le fait que c'est pas facile de mettre en œuvre des dispositifs d'enquête. On peut pas mener avec un enfant en grande section de maternelle un entretien semi-directif comme on peut le faire avec un adulte.
Absolument.
Donc comment, face à cet obstacle méthodologique, comment vous vous y êtes pris ?
Bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait, on a fait quelques exercices langagiers. On n'a pas voulu appeler ça des tests, parce que c'est pas véritablement des tests, dans des situations, dans des conditions expérimentales, etc. Mais on les a mis face à des situations qui pourraient être de type scolaire, narrative. On leur a demandé d'essayer de raconter autour d'images fixes ou animées, etc.
Et même pour tous les enfants.
Oui, oui, absolument. Les mêmes images, les mêmes types de questions, etc. Et là, déjà, on voit comment les enfants... Il y a des enfants qui sont déjà capables de tenir une conversation alors que d'autres ne sont pas capables. C'est-à-dire que l'injustice, elle commence là, et on voit bien que c'est plus ou moins facile d'enquêter auprès d'enfants parce que la sociologie repose sur la possibilité de poser des questions. On fait de l'observation, et on a fait de l'observation en classe, mais on pose des questions pour savoir comment ça s'est passé, comment ils ressentent les choses, qu'est-ce qu'ils pensent d'eux, quel goût, quelle préférence, etc. Or là, on a affaire à des enfants qui sont inégaux déjà de ce point de vue-là. Alors évidemment, plus on va vers les petits, ce serait évidemment pire pour les bébés, mais là on a affaire à des 5-6 ans. Et ben, à 5-6 ans, il faut voir les parents, il faut voir les adultes autour. Donc on est allé voir 3 fois les parents sur des domaines extrêmement différents, santé, école, loisirs, langage, enfin vraiment alimentation.
Parcours de vie aussi pour les parents,
absolument.
Histoire familiale.
Voilà, on a réinscrit dans une histoire familiale en remontant aux grands-parents, etc. On est allé voir soit la nourrice, soit la grand-mère qui était parfois la nourrice. C'est à peu près les cas qui se présentaient dans l'enquête. On a fait des entretiens avec l'enseignant, on a observé en salle de classe et on a fait donc ces exercices langagiers. Donc c'est un, on a parié sur l'intensification des informations sur les mêmes élèves, les mêmes enfants. Donc on a beaucoup d'informations sur ces cas-là. Ça permet de croiser les informations entre ce que dit la grand-mère ou la nourrice ou ce que dit l'enseignante et ce que disent les parents, entre ce que disent les parents dans tel domaine et dans tel autre domaine, etc. Donc c'est à la fois très lourd et en même temps ça facilite, je pense, l'enquête. Et ça, c'est une chose qu'il faut dire aux sociologues. N'ayez pas peur de faire beaucoup d'entretiens, parce qu'en fait, ça facilite le travail d'interprétation. On est beaucoup plus confortable à comprendre une situation quand on a beaucoup plus d'informations sur cette situation.
Alors, si tout à l'heure j'ai appelé Achane, Mathilde et Lucie, c'est pas seulement parce que vous aviez participé à, pour chacun d'entre eux, à ces entretiens, à ces tests langagiers, etc. C'est aussi parce que chacun de ces enfants appartient à une des trois grandes catégories, puisque vous avez décidé de les présenter, de les classer comme ça. Achane appartient aux classes populaires, Mathilde appartient aux classes moyennes et Lucie appartient aux classes supérieures. Comment vous avez constitué ces catégories? Sur quelle base? Sur quel type de données?
Alors, l'idée, c'était d'arriver à retenir des enfants et des familles, donc, dans les trois grandes classes sociales et en tenant compte des variations à l'intérieur de ces classes. Sachant qu'au départ, on pensait même pouvoir doubler chaque position retenue avec des garçons et des filles, ce qui a été rapidement laissé tomber. Donc on a
ce qui donne une priorité à la classe sociale sur le genre.
Voilà. Et on a tenu compte du genre, évidemment, en fonction des cas qu'on avait. Et qu'on peut dire du coup que c'est plus facile de vivre la vie de Valentine, qui est une fille, que la vie d'Achane, qui est un garçon, que la classe sociale apporte des atouts qui sont beaucoup plus puissants que les avantages tout à fait réels qu'il y a quand on est un garçon par rapport à une fille. Indépendamment de la classe sociale. C'est-à-dire que là, il faudrait faire exactement le même type de travail sur le genre. Nous, on a annoncé le fait que voilà, on tenait
c'était
compte de ça.
C'était compliqué de tenir tous les bouts.
Mais on pouvait pas en termes de représentation de l'échantillon, de construction de la population. Donc on a voulu avoir les trois classes sociales, voulu avoir les fractions de classe, les grandes fractions de classe. Alors ça, c'est un schéma qu'on connaît bien depuis Bourdieu. C'est à la fois le volume global du capital économique et du capital culturel possédé. Il y a des enfants qui sont dans des familles où on a très peu de culture scolaire et très peu de capital économique. On va des plus précarisés aux plus stabilisés dans les classes populaires. Et là, on a fait vraiment l'effort d'en avoir trois qui étaient vraiment dans les fractions les plus précarisées, parce que c'est souvent celles qui disparaissent dans les grandes enquêtes comparatives. On connaît beaucoup les classes populaires assez stables, qu'elles soient d'ailleurs avec des ouvriers peu qualifiés ou qualifiés, mais on connaît assez mal finalement les cas dans les enquêtes comparatives, encore une fois, les cas des enfants qui vivent dans des situations extrêmement précaires.
Là, il faut dire par exemple, il y a un enfant qui dort dans la voiture avec sa famille.
Voilà. Ils sont, je crois que c'est 5 dans la voiture. Ça sent mauvais dans la voiture, très concrètement. La question de comment on se lave, comment on se nourrit, comment on vit dans ces conditions-là. Heureusement qu'il y a l'école qui aide, qui permet de prendre des douches, etc., etc. Enfin bon, c'est très très compliqué. Donc on a ça. Dans les classes moyennes aussi, on a tenu compte d'une opposition entre ceux qui peuvent être par exemple agriculteurs et ceux qui peuvent être enseignants et qui n'ont pas le même profil en termes de rapport à la culture par exemple et de rapport au monde social parce qu'on est indépendant ou salarié, etc. Et puis on a dans les classes supérieures évidemment ceux qui sont plutôt à fort capitaux économiques et qui parfois n'ont pas toujours tous les capitaux culturels mais qui ont quand même beaucoup d'argent. Et on a à l'autre bout, ben, le cas par exemple de Lucie, voilà, avec des parents à très forts capitaux culturels. Donc c'est comme ça qu'on a construit les choses. Il y a forcément des trous, puisque enfin un espace social, c'est que des trous en fait. Hein. Souvent quand on me dit mais il y a des trous dans votre enquête, je dis bah oui, forcément. Et nous, ce qu'on veut, ce qu'on est allé chercher, c'est des positions stratégiques à l'intérieur de cet espace qui permettent de continuer le raisonnement, c'est-à-dire qu'on voit des logiques. On voit que plus on va vers les capitaux culturels ou plus on va vers les capitaux économiques, plus le style éducatif, le rapport à la culture, le rapport à la santé, etc., se modifie à chaque fois. Donc c'est ça qui est intéressant.
Et ce qui est très intéressant, on ne pourra pas rendre justice à la richesse des observations, des récits, des portraits qui composent ce livre, parce que c'est un livre extraordinairement incarné, mais aussi traversé d'interrogations théoriques, de réflexions qui permettent de mieux comprendre les mécanismes des inégalités, la façon dont elles se combinent, s'amplifient, se neutralisent parfois, mais surtout la manière dont elles produisent des effets très concrets s'agissant de la vie de ces enfants, de leur environnement le plus immédiat, de la manière dont est aménagé leur espace dans l'appartement, du lieu dans la ville dans lequel ils habitent, etc. Des choses très... Et évidemment du rapport à l'école. Je voudrais venir à ce que vous proposez à l'issue de ce grand périple dans ces mondes, Bernard Lahir, en conclusion du livre, autour de ces notions de réalité augmenter et diminuer. Parce qu'au fond, en réfléchissant aux effets des inégalités, aux effets que produisent les inégalités sur les individus, vous arrivez à souligner combien finalement on n'a pas besoin d'attendre le transhumanisme pour être augmenté dès lors qu'on a de l'argent, mais dès lors aussi qu'on a de la culture par exemple. Et inversement, comment l'absence de ces choses peut faire de vous un individu diminué par rapport aux autres, puisque tout ça est toujours évidemment relatif.
Oui, c'est-à-dire moi j'ai voulu réinscrire ces questions d'inégalité qui sont souvent très abstraites au fond. C'est-à-dire que nous on n'arrive pas dans un désert évidemment, même si à 4 ans, je peux vous dire que on avait vraiment envie de mettre la question des inégalités durant l'enfance sur la table parce que on voyait un manque cruel de ce côté-là. Mais on parle beaucoup d'inégalités en déréalisant beaucoup ces inégalités. On en parle et puis on pense à autre chose, quoi. Enfin, et nous, on voulait. Enfin, moi, je sais que c'était un souci dès le départ. Je me suis dit, il faut absolument qu'on montre ce que ça fait, sur les corps de ces enfants, sur la. Il y a des choses qu'on peut pas calculer, évidemment. Mais quand on voit qu'un enfant mange des choses très grasses, très sucrées régulièrement, on sait qu'il y a du diabète au bout de tout ça. Donc en fait, on voit bien que ces inégalités ont des effets, que même si on en sortait les enfants au bout d'un certain temps, ça continuerait à les marquer, parce qu'on ne se sort pas comme ça d'expériences de privation, etc. Et donc l'idée, c'était de réinscrire ces inégalités dans des questions anthropologiques importantes, c'est-à-dire l'idée que c'est quoi l'humanité ? Ben c'est l'humanité se distingue du règne animal non humain par la capacité à produire des artefacts, à produire des outils, à produire des machines, à produire du savoir, etc., qui va être écrit, etc. Et donc la question des inégalités, quand on la pose comme ça, on se rend compte que c'est la question de l'appropriation par certains et la non-appropriation par d'autres de tous ces bienfaits, de tous ces acquis de l'humanité. En fait, à chaque fois, quand on a un enfant qui ne peut pas se soigner ou les parents sont pas en état, n'ont pas le bon réflexe ou n'ont pas l'argent, etc., pour aller soigner un enfant, ou ils pensent pas aller voir un spécialiste, etc. Bon, à chaque fois, il faut penser que derrière un spécialiste, il y a un produit formidable de la civilisation, avec des possibilités de faire un scanner, des possibilités de faire des examens complémentaires, de sang, etc. La même chose, on peut penser à la littérature. Bon, est-ce que la littérature, ça fait inégalité, etc. Ben oui, ça fait inégalité. quand on a la possibilité de découvrir le monde très tôt par un grand nombre de récits sur le monde, que ce soit des récits de fiction, des récits sur le monde réel, avec l'idée de documenter le monde, etc., bah c'est des avances prises, c'est une ouverture. On parle souvent de la littérature comme une ouverture sur le monde, mais oui, ça ouvre des possibles, ça ouvre des horizons. Quand vous avez l'argent pour avoir non seulement une grande maison, mais des résidences secondaires, la possibilité de voyager, la possibilité... Bon, à chaque fois, votre monde s'agrandit. Et donc, moi, ce qui me fait toujours rire, c'est quand on est sur le transhumanisme ou le post-humanisme, etc., c'est que je me dis, mais la réalité, elle est augmentée pour les uns depuis très longtemps et relativement diminuée pour les autres. On peut quand même se dire que cette réalité, elle a été quand même, malgré tout, augmentée pour tout le monde grâce aux services publics, et grâce aux biens communs. Et que c'est ça que depuis plusieurs décennies, les gouvernements successifs attaquent ou défendent très très mal.
Alors je trouve optimiste dans cette conclusion parce que vous séparez au fond le capital économique où on voit bien qu'il y a une concurrence pour sa possession avec du capital culturel où au fond pour lequel on pourrait distribuer allègrement ce qui est l'objet de l'école publique et sans déshabiller Pierre pour habiller Paul, pour reprendre l'expression que vous utilisez. Mais au fond, à regarder ce qu'est l'école aujourd'hui, la compétition scolaire, on se dit que ce que François Dubé appelle le choix de l'inégalité dans les stratégies de certains parents qui quittent l'école publique, par exemple, on voit bien comment même ces capitaux culturelles, ces dimensions symboliques, au fond, fonctionnent exactement comme les capitaux matériels, bien avec des logiques de distinction qui font que on va essayer d'avoir ce que l'autre n'a pas, parce que toujours ces inégalités fonctionnent. Il ne peut y avoir de riches, y compris en matière culturelle, que s'il y a des pauvres, au fond, Bernard Lay.
Oui, alors c'est simplement que je distingue le capital économique. Quand vous donnez de l'argent à quelqu'un que vous avez perdu de l'argent. Quand vous apprenez à lire à quelqu'un, vous n'avez pas perdu votre capacité à lire. C'est ce qui est un avantage certain en termes de transmission de capitaux. Donc c'est ce point-là, c'est-à-dire que évidemment qu'en termes de valeur, si vous donnez à tout le monde la possibilité de lire et écrire, d'un coup, lire et écrire ne devient plus distinctif.
De littérature, il sera question, et d'enfance toujours, dans la deuxième partie de l'émission, puisque Sylvain Patieu nous rejoint. Mais avant ça, on écoute un extrait du nouvel album de Bon Iver, « Oui ». L'enfance des inégalités, aujourd'hui à la suite dans les idées, à propos du gros livre collectif dirigé par Bernard Lahir, Enfance de classe, Bernard Lahir qui est l'invité de l'émission. Et Sylvain Patieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancier, vous êtes aussi universitaire, vous êtes historien de formation, vous enseignez à Paris 8. Oui. Mais vous publiez en cette rentrée votre quatrième roman aux éditions du Rouergue, Forêt furieuse. Et ce roman s'ouvre par un avant-propos qui est aussi une sorte de manifeste, de note d'intention en quelque sorte pour le livre à venir. Et il commence comme ça, c'est une histoire d'enfance. L'enfant sauvage, il y en a eu pas mal déjà, c'est fascinant, ces gamins, ça fait peur. Alors l'enfant sauvage, c'est au fond un peu un cas philosophique ou historique limite qui montre par contraste au fond ce que ne sont pas les enfants et ce que souligne très bien le gros livre d'enquête, c'est-à-dire que les enfants d'humains sont des prématurés sociaux, ils ne peuvent pas exister tout seuls. Or ces cas d'enfants sauvages sont intéressants pour la fiction, intéressants pour les philosophes, intéressants pour qui veut essayer de poser une hypothèse un peu folle et peut-être pour faire apparaître des choses qui, par définition, n'existent pas dans les sociétés. Mais vous inventez une société avec cette forêt furieuse, Sylvain Patieu.
Oui, je parle d'enfants sauvages au début, mais c'est pas vraiment des enfants sauvages. Ils sont quand même inscrits dans cette société imaginaire dans laquelle j'entrechoque les paysages de l'Ariège et ceux de Seine-Saint-Denis, dans lequel j'imagine qu'il y a eu des guerres, des destructions, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà, ces enfants se retrouvent dans un lieu dans lequel, même si c'est des enfants, il y a des rapports de force, des rapports de domination, des groupes qui se créent, des conflits entre ces groupes. Et c'est assez drôle parce que c'est vrai que je suis universitaire et je suis parti de là, en fait, au départ pour écrire ce livre, puisque en tant qu'historien, j'avais fait une note de lecture sur un livre qui retraçait l'expérience des écoles dans la forêt, qui était un courant pédagogique du début du XXe siècle, qui est né en Allemagne, en Scandinavie, mais qui s'est répandu un peu partout en Europe, dans lequel ils imaginaient des écoles qui seraient près de forêts, avec beaucoup de circulation, d'air libre, d'eau, de lumière, un peu un projet hygiéniste. Voilà, donc je suis parti de là et ça a excité mon imaginaire, ça m'a donné envie d'écrire sur les enfants. Moi, j'ai aussi des enfants en bas âge, donc quand on les voit évoluer, ça excite aussi l'imaginaire. Et puis cet imaginaire-là, qui est, je dirais, plutôt joyeux, a rencontré les images terribles de ce qui peut se passer en Syrie avec les enfants soldats, avec là, et puis aussi un imaginaire littéraire avec des livres comme Sa Majesté des Mouches, par exemple, où on voit des enfants qui sont pas vraiment sauvages, mais qui reviennent à une forme de sauvagerie parce qu'ils se retrouvent plus qu'entre eux.
Alors c'est un livre dont vous êtes l'auteur, c'est un livre singulier, mais il y a une dimension collective très forte dans ce livre que vous mettez en scène. En cela, il fait écho aussi au livre qu'a dirigé Bernard Lahir, parce que vous dites c'est un livre qui est aussi né du travail que vous faites dans le master de création littéraire à Paris 8, de tous ces jeunes gens que vous avez croisés. Vous faites une liste de remerciements à n'en plus finir à la fin du livre. Il y a une dimension collective dans votre travail qui est en même temps un travail individuel, singulier, d'auteur.
Bien sûr, par exemple, mon expérience d'enseignant dans le master de création littéraire m'a beaucoup enrichi. Ça m'a permis, par exemple, de lire des textes de jeunes étudiants qui font des poèmes, qui font de la poésie, de la performance. Et ça m'a donné aussi envie d'aller voir de ce côté-là. Donc mon livre, c'est un roman dans lequel il y a des petits poèmes à certains moments, dans lequel il y a des formes un peu particulières. Et puis j'ai aussi
Même un flot de l'écriture.
Un flot d'écriture, bien sûr. Et puis par exemple, la manière de nommer mes personnages, ça m'est venu d'un jeune écrivain qui s'appelle Yankuba Diémé, qui était un étudiant du master, qui sort là en cette rentrée un livre qui s'appelle Boy Diola, chez Flammarion. Et lui, voilà, il a cette manière de nommer des personnages qui m'a inspiré. Donc c'est vrai que j'ai des longs remerciements, mais ça, c'est peut-être le côté historien qui ressort, l'idée de citer ses sources et puis de citer ses influences, et aussi de donner envie aux lecteurs, quand ils ont fini mon livre, d'aller voir vers d'autres horizons.
La dimension collective, Bernard Lahir, on en a peu parlé dans le travail que vous avez, que vous dirigez, que vous publiez, mais elle est absolument fondamentale. C'est-à-dire que vous avez vraiment essayé de mettre en au travail un intellectuel collectif.
Oui, ça, c'est, clairement. C'est pas simple. C'est pas simple, surtout dans une université qui fonctionne à l'évaluation individuelle et la question de la signature, etc. Enfin, c'est un objet en soi. Et si on veut réussir...
Et le monde éditorial aussi, d'ailleurs.
Oui, aussi. Aussi, c'est vrai. En plus, un ouvrage collectif, ça peut être mal vu, considéré. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ouvrages collectifs qui sont pas très bons, à mon avis, parce que c'est des... Ça peut être intéressant de les consulter.
Parce qu'ils peuvent être faits de briques et de brocs, parfois.
Mais voilà, parce qu'on peut ranger à l'intérieur plein de contributions assez séparées. Là, vraiment, c'était complètement intégré, donc voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le roman de Sylvain Patieu, c'est le côté... la société est violente et les enfants le sont, quoi. C'est-à-dire qu'en fait... moi, j'ai pensé au ruban blanc en vous lisant, c'est-à-dire que les enfants sont violents.
Film de Michael Haneke.
Voilà. Mais c'est parce que le monde est violent, quoi. Donc il y a pas de raison qu'il soit différent. Et je trouve ça assez saisissant quand même dans votre livre.
Oui, c'est vrai que c'est un livre qui est assez, d'un côté assez sombre, assez violent, même s'il y a des moments joyeux. Et c'est vrai que c'est un reflet en fait du monde dans lequel on est, quoi. C'est assez inquiétant. Et puis bon, moi je vis dans un endroit, je vis en Seine-Saint-Denis, c'est un endroit où il y a des contrastes sociaux qui sont très forts. Et donc quand je lisais le livre de Bernard Lahire, je reconnaissais plein de choses que je vois à l'école avec mes propres enfants et tout ça. Et puis c'est vrai que quand on fait le choix du public et qu'on tient au public, on les voit ces contrastes sociaux. Et le côté collectif qu'il y a dans mon livre, c'est aussi comment des enfants peuvent s'approprier ce monde et le dire avec leurs gestes à eux, avec leurs mots à eux. Des fois influencés par les adultes, mais aussi avec une certaine autonomie qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que c'est aussi une question que je me posais en lisant Enfance de classe. Je me disais, ce qui est intéressant dans le livre et qu'il faudrait peut-être, parce que vous dites vous-même qu'il y aurait plein de prolongements possibles, les questions de genre, à mon avis les questions de race aussi, enfin envisagées d'un point de vue social et non biologique bien sûr. Et puis je me disais aussi, qu'est-ce que ça fait les effets de groupe en fait pour les enfants d'être scolarisés à tel endroit ou à tel autre. Il y a un des personnages, je crois que c'est Valentine, où ils disent elle est dans le 16e arrondissement de Paris, et ils disent c'est que des enfants très bourgeois, et puis il y a quelques enfants de concierge. Qu'est-ce que ça fait ce frottement, ces contacts? Et moi c'est vrai que dans mon livre il y a beaucoup de contacts, beaucoup de choses qui s'entrechoquent, qui se
cognent. Voilà, il y a des contrastes.
Il y a des contrastes, et puis il y a aussi c'est de l'imaginaire, donc ça vient de plein d'endroits différents. Je mélange des contes et légendes d'Ariège avec l'histoire de la guerre des demoiselles au 19e siècle qui est en Ariège, avec les chansons de groupes de rap comme PNL, quoi, voilà, qui m'influencent aussi dans le vocabulaire, dans la manière d'écrire et tout ça. Et c'est vrai qu'on peut se permettre ça dans un roman. C'est plus compliqué de se le permettre en sociologie, mais
oui,
il y a quand même ce frottement, on les voit.
On
quand
voit
même
aussi ces contrastes, Bernard Lahire. Oui. Effectivement, être enfant de concierge dans le 16e arrondissement, c'est pas être enfant du même type de milieu social dans une école plus homogène. Par exemple,
on voit même que la stratégie résidentielle de certains, où on voit bien qu'en milieu populaire, le choix de mettre ses enfants dans l'école privée alors qu'on n'a pas trop de moyens, etc. Il y a plein de choses comme ça qui montrent qu'il y a des stratégies de distinction partout, en fait. C'est un monde un peu fou où dès qu'on perçoit qu'il y a quelque chose d'un peu mieux, évidemment, on le souhaite pour ses enfants. Mais du coup, c'est une course où évidemment certains sont plus armés que d'autres, ont beaucoup plus d'atouts et d'autres des handicaps. Mais en fait, dans les milieux populaires même, on a des gens qui cherchent à se distinguer des autres, hein. Même par la coiffure. Il y a un cas, on essaye d'avoir une coiffure un peu stylisée, d'avoir des vêtements de marque entre guillemets pour se distinguer de ceux qui bon. Alors que au-dessus, il y a ceux qui vont penser que justement, il faut pas ces marques-là, parce que ça fait trop populaire, ça fait trop commercial, ça fait trop tendance, etc. Ou les stratégies pour ne pas mettre sa fille trop dans des modèles genrés, parce que être trop fifi, c'est pas bien. Parce que il faut vaincre la domination masculine. Toutes ces stratégies-là, on les voit. Et puis nous, on a tenu aussi à maintenir la manière de parler des gens. On n'a évidemment pas écrit de manière phonétique, mais on a voulu faire entendre que, certains parlent pas comme d'autres, quoi. Et il y en a qui parlent très très bien la langue française et d'autres qui sont très très loin, qui prononcent mal les mots, il faut le dire comme ça, d'un point de vue scolaire. Mais immédiatement, quand on donne à lire ça, on se rend compte que, à chaque fois qu'ils vont se retrouver devant une autorité, ils vont les entendre comme ça. Et ils vont être jugés comme ça. Donc voilà.
Fort et furieux, c'est un livre qui se lit, mais c'est un livre qui s'entend aussi beaucoup.
Oui, parce que moi je travaille beaucoup sur la langue, sur le rythme aussi, le rythme des phrases. Et puis j'utilise du vocabulaire en fait, du vocabulaire de plein de sortes différentes. En fait, j'utilise certains mots de vocabulaire qui viennent du rap, des mots qui viennent de la langue orale, du vocabulaire des enfants. Certains passages, je les ai reproduits en écoutant ce que disaient mes enfants, par exemple. Tout ça, je le mixe et j'en fais quelque chose qui m'est propre, avec un rythme qui fait écho à cette violence, qui fait écho aussi à cette densité de personnages et de lieux qui s'entrechoquent.
Sylvain Patieu a fait référence plusieurs fois à la relation à ses enfants pour écrire. qu'en est-il dans votre enquête collective? Quel type de réflexivité? Parce que j'imagine beaucoup des chercheurs qui ont participé ont eux-mêmes des enfants et que ça oriente peut-être parfois les problématiques. Ça permet de contrôler des choses ou au contraire de faire fausse route.
Moi, je sais, mais je devrais pas dire ça. Que les stratégies, par exemple, d'usage de l'ironie, qui est maniée par le père de Lucie, c'est quelque chose que je maniais et que j'ai toujours manié. Et en fait, ça, je savais très bien que c'était une stratégie intéressante pour développer des compétences langagières et de compréhension chez mon fils, on va dire. Mais il y a même un chercheur de Julien Bertrand avait qui a participé à la recherche a testé sur son propre fils, si je me rappelle bien, les exercices langagiers. Donc on a fait feu de tout bois quand on a des enfants. Piaget travaillait sur ses propres enfants, donc on a le droit.
Donc vos enfants et des étudiants aussi, ça c'est encore une autre type de relation, mais vraiment qui a nourri votre travail, Sylvain Patieu.
Oui, moi mes enfants, je les vois évoluer avec leurs camarades de classe, avec dans leurs activités sportives, ils font du foot, ils font du karaté, ils font des choses comme ça. Et il y a déjà une certaine violence aussi dans les rapports, parce qu'il y a déjà des phénomènes où il y en a qui sont exclus, il y en a qui sont populaires, il y en a qui s'en prennent plein la tête et d'autres qui sont déjà valorisés. Donc c'est assez terrible et assez amusant des fois à voir, quoi.
Ce qui est assez terrible, c'est de se trouver témoin au fond de cet engendrement des inégalités et qui parfois se produisent à la faveur de toutes petites choses qui nous font réaliser et comprendre les conséquences à très long terme de choses qui se produisent.
Et des choses qui nous échappent aussi, parce que l'école produit des effets quand même. L'école, les copains, les copines, voilà, il y a des... Par exemple, voilà, sur, quand on parle d'éducation genrée, par exemple, quand on a une fille, on essaye de lui dire t'es pas obligé de mettre toujours du rose ou des robes. Et puis, il y a ce qui se passe aussi à l'école où il y a d'autres modèles qui sont présentés et où parfois, on négocie. Voilà.
Merci Sylvain Patieu. Forêt furieuse, c'est le titre de votre roman qui paraît aux éditions du Rouergue. Enfance de classe, c'est le titre du livre sous la direction de Bernard Lahire qui paraît aux éditions du Seuil. Vous trouvez les références bibliographiques de ces deux ouvrages sur la page de La Suite dans les idées, une page sur laquelle vous pouvez réécouter l'émission autant de fois qu'il vous plaira. Vous pouvez également, et je vous conseille de le mettre à jour à l'occasion de cette rentrée, vous abonner au podcast de La Suite dans les idées. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier, à la technique Régis Nicolas, à la réalisation Marie Placé. Et dans quelques instants, c'est Christine Bernard que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.